Vous êtes sur RTL.
Merci eux.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour. Salut la petite bande et Mastrac, Patrice Romden et Christophe Brun.
Bonjour Michel.
Rares sont les mots qui valent mieux que le silence, disait Henri de Monterland. Vous avez remarqué, je cite mes sources. Je vais donc me taire et vous laisser parler Emma.
Alors ce mois-ci, il y a eu la semaine de l'audition, mais moi aujourd'hui, je vais vous parler du silence et je suis très fière de ce bel oxymore, parler du silence, c'est pas mal quand même. Mm-hmm. D'ailleurs, je vais vous faire parler aussi parce que c'est un quiz que je vous propose dans quelques instants.
Patrice. Oh, c'est bon ça. Imani.
Ouais. Vous l'entendez, cette voix grave, envoûtante, de velours. C'est bien Imani. La chanteuse souffre d'une maladie chronique, figurez-vous, l'endométriose. Alors on en parle dans quelques minutes. Vous me direz, c'est le moment ou jamais, hein, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'endométriose.
Christophe.
Je t'aime pour le corps et l'esprit.
Les forbans dans cette chanson, le corps et l'esprit pour illustrer notre sujet du jour, l'éducation intégrale, ce concept qu'appelle de leur vœu un grand nombre de chercheurs et de spécialistes de l'éducation de nos enfants. Ces spécialistes se demandent si le corps ne serait pas le grand oublié de l'histoire de l'école française qui a toujours fait une différence entre les matières cognitives et celles qui épanouissent nos enfants physiquement. Alors quelle place pour le corps à l'école? On voit ça dans quelques minutes.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Emma, vous consacrez donc aujourd'hui votre chronique au silence, ce qui nous amènera aussi à parler du bruit. Et c'est sous la forme d'un quiz que vous allez nous soumettre, c'est ça?
C'est ça. Et Michel, je voudrais pas failloter, mais on sait, vous et moi, que vous risquez de les ratatiner sur ce coup-là.
Donc je me tais.
Je vous propose de, au moins, vous leur laisser une petite longueur d'avance, quoi. Alors, je commence avec des questions autour des décibels, puisqu'on commence à entendre le son à 0 décibels. À partir de quelle fréquence le son est-il dangereux?
130, 140, moins.
Je dirais 80 décibels.
Alors, voilà. Je peux me permettre une remarque.
Permettez-vous.
Non, je ne vais pas vous donner la réponse, mais ça dépend du temps.
Taisez-vous,
Patricia.
Oui, d'accord.
Juste, la fréquence, c'est en hertz, c'est-à-dire que vous avez du 0 hertz jusqu'à 8000 hertz où on peut entendre.
Ouais.
Et le volume, enfin l'intensité sonore, c'est en décibels. Donc vous voulez parler de quoi? De décibels ou de fréquence en hertz?
De décibels.
Donc, parce que vous nous avez dit
en
fréquence.
Ah oui, j'ai dit quelle fréquence?
Oui, non, mais c'est pas grave, vous
mais
n'êtes
non,
pas.
Mais si
je suis là pour ça.
Merci, Michel.
Donc je vous laisse répondre.
Alors moi, je dis, allez, 120 décibels. Ça commence vraiment difficile pour l'organisme.
Moi, j'ai dit 80, je reste là.
En fait, voilà. Je me mets en super difficulté parce que chaque fois que je dis... Non, à partir de 85,
voilà.
Le problème, c'est qu'on
ressent
rien. Elle
me regarde en pleurant.
elle regrette tellement d'avoir choisi ce sujet de chronique. Voilà, donc on ne ressent rien. À ce niveau-là, c'est à partir de 120 décibels que la douleur auditive apparaît. Mais les sons sont évidemment nuisibles avant ça. Donc, ils sont considérés comme nuisibles à partir de 80. Vous aviez dit ça, 80.
Nous avons un petit muscle dans l'oreille qui tire sur l'étrier et qui empêche le son de nous faire trop souffrir l'oreille interne, le muscle de l'étrier qui tire sur l'étrier pour pas qu'il s'enfonce trop quand il y a des sons importants. Oui,
l'étrier étant le plus petit os du corps humain qui en compte un peu plus de 200. Voilà,
absolument. Et le plus grand?
J'en sais rien.
Le fémur, bravo. Fémur.
D'après vous, une nuit à la campagne, c'est combien de décibels?
Avec qui?
Alors, à quoi faire? Non, c'est important.
Elle est contente d'être venue. Moi, ce matin, je vous dis.
Elle a préparé 15 questions, elle en passe 2.
Chez Patrice, c'est 5. Le week-end dernier, c'était 42.
Ah, aidez-moi, je vous en supplie.
Alors Emma, pour vous aider dans le désert, on dit qu'on pense qu'il n'y a aucun bruit alors qu'on est quand même à 4 ou 5 décibels.
Ouais,
décibels.
On est à 5 décibels, ouais.
Ah, alors?
Je dirais à la campagne 10.
20. J'ai appris ça dans l'ouvrage Éloge du silence. 40 décibels pour un réfrigérateur. Dis donc.
Qu'est-ce que c'est comme frigo?
Le bruit a été utilisé comme une torture.
Oui.
Vrai
ou
faux?
Oui, bien sûr.
C'est vrai, et par la CIA notamment, des bruits répétitifs diffusés en boucle ou carrément des morceaux de musique, du rap, justement. justement parce qu'il y avait ce côté répétitif, ou des titres comme We Are the Champions de Queen, comme la presse l'a rapporté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le silence utilisé comme une torture, vrai ou faux?
Ah oui, oui, oui,
ça peut être.
Dans des chambres capitonnées. Si, Michel, vous avez fait une expérience.
Si je peux en placer une, oui. Je ne maîtrise plus cette émission. Effectivement, je suis allé dans une chambre acoustique. C'était à Beaubourg. Et c'est une pièce dans laquelle il y a des cônes en mousse. Et c'est angoissant. Vous pouvez pas savoir de rester dans une pièce dans laquelle vous êtes. Vous n'avez aucun bruit.
Ça m'a torpillé ma dernière question, donc. Mais il paraît que dans ces chambres-là, on entend carrément les battements de son cœur,
ouais,
l'air qui circule dans les poumons et tout. Dingue comme expérience.
On entend tous les bruits de son corps.
C'est étouffant. C'est vraiment étrange.
Et vous pouvez faire un peu ce genre d'expérience ou l'approcher aussi dans le désert. Il m'est arrivé au fin fond du Sahara. D'être le soir.
L'aventurier.
Et effectivement, non, mais il n'y a pas un bruit. En fait, il doit y avoir 3-4 décibels, mais c'est
un peu important. Il entendait le bruit des babouches sur le sable.
De mes babouches.
De vos babouches.
Chameau qui glapit.
Les troubles cardiovasculaires touchent davantage les salariés exposés au bruit. Vrai ou faux?
Oui, je veux bien le croire.
Oui, parce que ça génère un stress.
C'est vrai, notamment pour l'hypertension. Et les troubles ont même tendance à augmenter chez les salariés qui ont de l'ancienneté à des postes de travail bruyants. Qui a chanté « Seul le silence est d'or, alors je me tais »
Patrice Rebelle.
Non, ça ne me dit rien du tout.
Un français? Un chanteur? Une chanteuse?
Un chanteur, pardon, français.
Non, je ne l'ai pas du tout.
Et le spécialiste de la chanson française, qui est Michel Simès, il a la réponse
à
cette question?
Non, je n'ai pas la réponse. J'étais en train de penser à quelque chose qu'avait dit Desproges en disant « En matière de sexe, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, et à ce moment-là, il me paraît urgent de me taire.
» Ok, il ne l'a pas chanté. Bon, allez, on l'écoute.
Garder des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais.
Je l'ai, c'est MC Solar.
MC Solar, bien sûr.
Bravo.
Et très belle chanson d'ailleurs.
Encore une? Une dernière?
Travailler en musique stimule la réflexion et la créativité. C'est vrai ou c'est faux?
Ouais, je dirais.
Ça dépend pour
alors,
qui.
Alors, ça dépend de quelle musique, peut-être. Ouais. Hein, et pour qui? Ouais, je dis. Oui,
mais
allez,
là,
oui.
Je vous demande vrai ou faux. Eh ben, non, je dis c'est faux. Je dis c'est faux. Bon, et c'est même tout le contraire, parce que le bruit a plutôt tendance à faire baisser la capacité du travailleur à réussir dans les tâches cognitives. D'autant plus si elle requiert de l'attention et de la mémoire. En réalité, le cerveau étant moins sollicité dans le silence, moins parasité donc par le bruit, il va pouvoir davantage mémoriser et réfléchir.
Oula, en faveur des open space.
Merci beaucoup Emma pour toutes ces questions dont nous avions les réponses. On va prendre en ligne un spécialiste, docteur Patrick Lemoine. Bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Vous êtes psychiatre et docteur en neurosciences. Vous sortez un livre, Docteur, j'ai mal à mon sommeil, chez Odile Jacob. Alors, c'est un livre qu'on peut qualifier de polémique, parce qu'on peut faire des livres polémiques sur le sommeil. Déjà, vous tordez le cou à tous les médicaments qu'on prend, tous ces poisons qu'on appelle des somnifères. Vous dites qu'ils sont inefficaces, dangereux, qui causent probablement des dizaines de milliers de morts par an et qui continuent à être autorisés, alors que des substances comme l'aspirine ou le paracétamol, nettement plus efficaces et mieux tolérées, ne font l'objet d'aucune recherche dans le domaine du sommeil. Alors on ne dit pas que l'aspirine c'est un somnifère, mais vous êtes remonté contre les somnifères, les vrais.
L'aspirine est quand même le somnifère le plus utilisé au monde, d'après les épidémiologistes, et de très loin.
Ah oui ?
De très loin. Et c'est connu dans nos campagnes depuis toujours. Mais si vous prenez les bons travaux, par exemple, de Ohio, Stanford, qui est le numéro un mondial de l'épidémiologie, il est clair, il dit non seulement c'est le plus utilisé au monde, mais ça marche. Sur les études longitudinales.
Et pourquoi ça marche? Un effet placebo?
Non, tout simplement que pour dormir, il faut que la température du corps baisse, et que pour avoir la pêche, il faut qu'elle monte. Et l'aspirine, comme le paracétamol, ça fait baisser la température, c'est QFD.
Et alors ça veut dire quoi? Qu'il faudrait prendre, au lieu de prendre des somnifères, on prend un comprimé de 500 mg de paracétamol le soir?
Alors, pas dans tous les cas, parce que des fois, il y a des méthodes plus simples, comme de prendre un bain tiède, pas se sécher le soir, se mettre au frais, pas avoir une chambre surchauffée, être dans le silence. Sauf si le bruit est continu, parce qu'une cascade ou le bruit de la mer, ça fait dormir. Alors qu'effectivement, des bruits discontinus, comme un immeuble bruyant ou un aéroport, font monter la tension. Les habitants des immeubles bruyants ont une tension en moyenne plus élevée que ceux des immeubles calmes. Donc ça, vous avez totalement raison dans votre quiz. Bref, si quelqu'un se réveille la nuit et a du mal à s'endormir parce que le petit vélo se déclenche dans la tête, eh bien effectivement, Par exemple, moi, quand ça m'arrive, un petit paracétamol effervescent. Pourquoi effervescent? Parce que ça va plus vite. Et pouf, je me rendors.
Alors, on rappelle quand même, parce qu'il faut quand même expliquer que le paracétamol est un médicament et qu'il y a des personnes qui, en cas de surdosage, font des hépatites dramatiques avec le paracétamol. Donc, c'est pas, on s'amuse pas avec ça. Christophe.
Que dire aux gens qui, la nuit, quand ils se réveillent, j'en connais certains qui allument la radio ou la télé et se rendorment?
C'est qui, quand vous dites j'en connais certains, c'est vous?
Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai discuté de ça avec.
Pour une fois, vous nous parlez pas de vous.
Non. Dans le cas de mon boulot, par ailleurs, on est en train de travailler sur le sommeil et on s'est rendu compte que plein de gens faisaient ça en fait. Est-ce que c'est bien ou pas bien?
Alors, la radio, ça dépend laquelle. Si c'est la vôtre, c'est trop intéressant, ça va pas tenir l'éveil. Mais peut-être que les chaînes concurrentes, oui, n'est-ce pas, hein. J'ai été briefé avant, vous savez. Voir mon cachet, il est génial. Bref.
Votre cachet de paracétamol, bien sûr.
Oh là là, festival.
Wow, elle est bonne celle-là. Donc, en réalité, tout ce qui est distracteur, donc qui empêche de penser à ce qui réveille, ce petit vélo dans la tête dont je parlais, peut être bon à prendre. Il vaut mieux que ce soit que du son. Donc, il y a les bruits roses qu'on peut télécharger aussi, qui peuvent faire des distracteurs. Il y a des méthodes psychologiques, comme le body scan, où on se concentre les yeux fermés sur l'extrémité de son gros orteil gauche, et puis on remonte centimètre par centimètre. Et en général, à mi-cuisse, pas plus haut, parce qu'après ça énerve. Après ça énerve.
Et d'ailleurs, ça m'amène une dernière question. Et alors, si on se réveille à deux dans le lit et qu'on n'arrive pas à s'endormir, on fait un câlin et on se rendort.
Ça, c'est tout à fait démontré. En effet, il y a l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de l'amour, et les endorphines, si on va plus loin dans le câlin, qui sont des bons endormisseurs. Seul problème, c'est les endorphines, ça fait un peu ronfler, donc il y a du pour et du contre. Mais globalement, oui, c'est une bonne idée.
Deux, ça, c'est...
Oui, c'est vrai. Si c'est
merci. Merci beaucoup, docteur Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neurosciences. Je rappelle votre livre « Docteur, j'ai mal à mon sommeil », sorti chez Odile Jacob. Et on reparlera un peu de sommeil tout à l'heure avec le professeur Pierre Philippe dans la partie 3. Merci mille fois. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Et on va parler de l'endométriose avec Patrice.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
RTL.
Tous les jours, RTL
vous tient informé.
La suite, bien entendu, c'est avec vous, Yves Calvi, bonjour.
Merci beaucoup, Julien. On va bien évidemment continuer à suivre l'actualité du jour.
RTL vous vient en aide.
Envoyés spéciaux, coup de fil, négociations en direct, tout peut arriver. Nous marchons sur un film et nous faisons tout pour vous aider.
RTL vous donne la parole.
Didier est avec nous. Vous êtes maire de Fontvannes, dans l'Aube.
Oui, dans l'Aube, en Champagne, Bastien, tout à fait.
Gaël est avec nous également. Bonjour, Gaël.
Bonjour à
et
tous.
Peut-être pouvez-vous échanger avec Didier sur ce sujet.
RTL vous divertit.
Moi, tout ce que je veux, c'est des animaux. Maintenant, j'aime plus les gens.
Ah oui.
J'aime que les animaux.
Alors... Moi, je suis comme elle, mais maintenant, je peux même plus saquer les animaux.
Vous pouvez aussi découvrir à tout moment nos trois web radios et l'ensemble de nos podcasts inédits sur le site rtl.fr et notre application pour smartphone.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right.
Imani en live au grand studio de RTL, c'était en 2016. Don't be so shy, ne sois pas timide, Chantelle, ne soyez pas timide. Patrice, vous allez nous parler d'Imani et du combat qu'elle mène contre l'endométriose.
Oui, c'est un combat qui concerne 4 millions de femmes en France. Parmi elles, 60% auront du mal à avoir un enfant et 30% n'en auront pas. L'endométriose est la première cause d'infertilité dans notre pays.
Voilà, un petit mot quand même sur cette maladie gynéco qui a longtemps été ignorée, hein. Elle se caractérise par la présence en dehors de l'utérus de cellules qui sont issues de la muqueuse utérine, on appelle ça l'endomètre, d'où le nom de la maladie, l'endométriose. Et la conséquence, ce sont des douleurs dans le bassin très invalidantes, notamment au moment des règles.
Oui, des règles douloureuses et une fatigue qui conduit parfois à l'exclusion sociale, car les femmes concernées sont souvent obligées de se mettre en arrêt maladie ou de sécher les cours quand elles sont lycéennes. Alors de tout cela, Imani parle sans phare dans les nombreuses interviews qu'elle a accordé à Match, Elle, Gala ou encore Doctissimo. Et pour elle, il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le tabou qui entoure les règles. On a tendance à considérer qu'une femme qui souffre une fois par mois, ma foi, ben c'est normal, et qu'il n'y a pas de quoi s'en émouvoir.
Le second problème, c'est l'errance médicale. Imani a été diagnostiquée à 23 ans, c'est-à-dire 9 ans après ses premières règles. Et ce délai est insupportable pour nombre de femmes, parce qu'entre-temps, on leur prescrit du paracétamol, on leur suggère d'aller voir un psy, et ce faisant, eh bien, on perd du temps. Et pour Imani, le diagnostic est tombé parce qu'elle a fini par passer une célioscopie.
Voilà, une célioscopie, hein, c'est un acte chirurgical. On va faire une petite ouverture dans la paroi de l'abdomen pour observer avec une mini-caméra l'intérieur de la cavité abdominale ou du petit bassin pour repérer d'éventuelles lésions. C'est vrai, c'est un examen qu'on peut être amené à faire quand une femme veut avoir un enfant et qu'elle n'y parvient pas.
Et c'est ce qui est arrivé à Imani, ce désir d'enfant, elle l'avait. Et finalement, au terme d'une grossesse difficile à 38 ans, elle a donné naissance à un bébé qui aujourd'hui la comble. Mais initialement, le pronostic n'était pas bon. Hein, et selon elle, les choses se sont mises en fait à fonctionner dès lors qu'elle a accepté l'idée de ne jamais devenir mère. Comme quoi, la psychologie joue aussi un rôle dans cette affaire.
Professeur Michael Grimbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien. Est-ce qu'il y a une dimension héréditaire avec cette endométriose? Est-ce que ça se transmet de mère en fille?
Alors, il y a une composante héréditaire à n'en pas douter. Maintenant, il n'y a pas une transmission systématique de mère en fille, mais on sait qu'il y a des familles d'endométriose. Donc, dès lors qu'on sait qu'il y en a chez une femme, il faudra se poser la question, mais j'espère qu'on aura évolué d'ici là. C'est-à-dire que si la jeune fille a très tôt des douleurs importantes pendant les règles, il faudra aller savoir le chercher. Mais j'espère qu'on fera ça pour toutes les filles et pas seulement celles qui viennent juste, qui ont eu des mères, qui ont eu une endométriose.
Oui, parce que c'est dingue quand même le retard au diagnostic de cette affection dont on parle depuis tant d'années. Emma.
Et est-ce que c'est une maladie longtemps ignorée, comme vous le disiez dans la chronique, ou aussi, en plus de ça, mal connue, voire de plus en plus fréquente? Parce qu'on en parle de plus en plus depuis quelques années.
On ne sait pas bien si elle est de plus en plus fréquente, c'est pas exclu, mais on la dépiste de mieux en mieux. On la dépiste de mieux en mieux parce qu'il y a eu des progrès, notamment radiologiques. Avant, on était obligé de faire des célioscopies et des actes chirurgicaux pour faire les diagnostics. Maintenant, avec le développement de l'échographie, avec les IRM, on est capable de faire des diagnostics plus précoces, donc on en diagnostique de fait beaucoup plus. Et parallèlement à ça, bah, les médecins commencent à être un petit peu mieux informés. Un petit peu seulement, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances chez mes confrères, y compris médecins généralistes et gynécologues médicaux. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale du corps médical et de la population pour qu'on se mette tous à explorer un peu mieux et à faire des diagnostics plus précoces qui sont d'autant plus importants pour ces femmes.
Alors, professeur Grimbert, on comprend que des généralistes, ça devient tellement compliqué tout ce qu'il faut savoir en médecine qu'on puisse passer à côté d'un diagnostic d'endométriose. Mais franchement, comment des gynécos peuvent passer à côté de ça?
Parce que beaucoup ont été pendant longtemps dans le fait d'avoir des règles douloureuses finalement une fois par mois. C'est normal. C'est normal. Et ben non, en fait, c'est pas normal qu'il y ait des douleurs vraiment insupportables. C'est une des premières causes d'absentéisme scolaire chez les jeunes filles. Et on sait jamais plus poser les questions que ça. Et il y a aussi un autre facteur, il y a le fait qu'aujourd'hui, on est quand même relativement démunis par les traitements. À partir du moment où on ne sait pas d'où vient cette maladie, aujourd'hui, on ne sait pas la traiter, on ne sait pas traiter la cause. Donc aujourd'hui, on met au repos l'endométriose, on essaye de la mettre au repos avec des pilules, avec divers traitements hormonaux. La prise en charge, c'est très souvent fait comme ça. C'est-à-dire que la jeune fille se plaignait de douleur, tu as des règles douloureuses, je vais te mettre sous pilule, ça va aller mieux. Effectivement, ça allait mieux. Et les problèmes ressurgissaient au moment de l'arrêt de pilule et au moment où la femme voulait avoir un enfant.
Je crois que s'il y a un message à faire passer aujourd'hui lors de cette journée de l'endométriose, c'est y penser. Voilà, à partir du moment où on y pense, on va la chercher. Et donc, mesdames, si vous avez, ou mesdemoiselles, si vous avez des règles douloureuses, ça n'est pas une fatalité. Il faut évoquer le mot d'endométriose avec votre médecin généraliste ou votre gynécologue, si vous en avez un, pour lui donner l'idée d'aller chercher dans cette direction. Merci beaucoup, Michael Grimbert, gynécologue obstétricien. Merci pour ces informations. Les amis, on a le temps pour des petites brèves. Christophe.
Moi, j'ai un mot de patience. Monsieur très aristocrate qui va chez le médecin généraliste.
Aristocrate.
Très grande famille qui va chez le médecin généraliste et qui se plaint d'un mal de gorge, etc. Le médecin le regarde, voit pas trop ce qu'il a et le médecin dit bah, écoutez, j'hésite un peu. Et le gars lui dit écoutez, peut-être qu'il y a angine sous roche.
Oh, c'est joli.
Voilà.
Emma.
On vous parle souvent du fait que pour être en bonne santé, il faut commencer par bien manger. Mais parfois, on est freiné par le temps que ça prend et le prix que ça coûte. Et c'est pour ça que je voulais vous signaler l'onglet du site mangerbouger.fr intitulé En 2-2. Il vous promet des recettes à 2 euros concoctées en 2 minutes. Bon, alors 2 minutes à... ou presque, disons. Et au menu, vous avez un curry de lentilles, une shakshuka, une salade de pois chiches, des samoussas, un potimarron au micro-ondes. Le site, c'est mangerbougertoutattaché.fr.
Ça tombe bien, j'adore l'onglet. Patrice.
Emma, faites-moi un sourire.
Oui,
pas mal. Moi, merci. Remerciez-moi, car grâce à moi, vous venez de faire travailler une vingtaine de vos muscles.
Ah bah, je vais garder.
Ah bon? Tout ça avec un simple sourire. Hein. Au fait, combien on a de muscles dans notre corps ?
Un certain nombre.
Alors moi, je suis à 640 muscles. 640. Et on en utilise 60 pour animer notre visage.
Hein. 60. Ah oui, quand même. 60, bah dis donc.
C'est du sport. Vous rappelle que nous sommes partenaires avec Dr Good, le magazine qui est en kiosque actuellement, le nouveau magazine, avec une couverture sur les maux de tête et les migraines. Et puis, double page sur les acouphènes à l'intérieur, sur l'apnée du sommeil, on y répond, on dit question. Et sur le problème des Covid longs, tout ceux qui ont fait un Covid et qui sont encore fatigués des mois plus tard. Dans quelques instants, on prend la partie 3 et bien sûr, il y aura le jeu avec un très 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 beau cadeau.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la partie 3 de l'émission et nous allons jouer. On va jouer avec... je vais vous dire ce qu'on va gagner. Non, parce que Aurélie va gagner. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes infirmière libérale dans le Nord,
c'est
à Fénis. On dit Fénis ?
Fénis.
Fénis, près de Maubeuge. Alors, il paraît que vous avez tellement d'anecdotes sur la santé que vous pourriez en écrire un livre.
Sûrement. Ça fait 15 ans que j'exerce, en effet. Je pense que je pourrais écrire un livre.
Mais vous notez un peu tous les trucs ou pas ?
Non, non, mais je devrais.
Ah, vous devriez. Ouais. Hein. Moi, je les ai notés. Hein. J'en ai plein. J'ai un petit cahier avec des trucs pas possibles. Aurélie, est-ce que vous aimez le bateau ?
Oui. Oui, ça va.
Bon. Vous aimez naviguer ?
Bah écoutez, j'ai jamais navigué, mon mari navigue, moi j'ai jamais navigué. Donc.
Eh ben vous allez pouvoir, si vous gagnez, naviguer sur un canal, une rivière, puisque vous allez partir une semaine en vacances pour 4
wow.
sur un bateau de location, le boat, pour naviguer donc sur une rivière ou un canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ en France et il y a plus de 600 bateaux.
Cool.
On n'a pas besoin de permis, ils sont super confortables, moi je l'ai fait une fois, c'est juste merveilleux. Et alors là, c'est calme, c'est la zénitude et c'est tranquille.
Tout ce qu'il nous faut en ce moment.
Exactement. Mais il va falloir quand même que vous trouviez la bonne version. Je vous rappelle qu'on va vous donner une petite histoire et qu'il y a 3 versions. Il y en a une seule qui est bonne.
D'accord.
Des chirurgiens mégalos, vous savez, ça existe. Vous avez dû en rencontrer en tant qu'infirmière. Mais là... on tient un spécimen. Alors l'histoire se passe en Angleterre, à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham. En 2013, le docteur Simon Bramhall opère 2 patients sous anesthésie pour une transplantation du foie. Quelques temps plus tard, les patients repassent sur le billard pour une opération de suivi. Et là, les médecins découvrent quelque chose qui va les conduire à demander des explications au docteur Bramhall, lequel finira devant les tribunaux pour abus de pouvoir. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? 3 versions, je vous rappelle, 2 sont le fruit de notre imagination. L'une est bonne, mais laquelle version, Emma ?
Le docteur Bramhall a tout simplement laissé une photo d'identité de lui, évidemment, dans les entrailles de ses patients. Alors, comme souvent, quand il repère un corps étranger en son sein, l'organisme a naturellement fabriqué des tissus pour isoler la photo de manière à ce qu'elle n'abîme pas les organes. Mais la photo était bel et bien présente.
Et si vous marrez en même temps, ça va être...
Ça se voit que j'y crois moyen ou pas ?
Bah, on sent qu'elle a plus que 2 versions maintenant.
C'est ça, c'est moins crédible.
Attendez, vous allez voir la mienne.
La version Christophe.
Le docteur Bramhall a signé son opération en laissant, vous voyez, un peu comme Zorro avec le Z, ses initiales sur le foie des malades transplantés. Il faisait un B en fait au laser. Et pour ce faire, il a utilisé un laser à gaz argon. C'est un instrument souvent utilisé en chirurgie pour éviter les hémorragies. Mais lui, il s'en est servi pour graver ses initiales, une dédicace de 4 cm sur les organes de ses patients, SB comme Simon Bramhall.
Version Patrice.
Alors le docteur Bramhall a une passion,
la peinture abstraite. Il pratique en amateur. Et alors, attendez, avant de recoudre ses patients, il a badigeonné leur foie avec un pinceau. Alors, mégalo, mais pas complètement dingue non plus, il a utilisé une peinture végétale non toxique pour l'organisme. Au tribunal, il dira avoir voulu tenter, je cite, « une expérience artistique, vivante et secrète ».
Ben bon, alors...
Dans tous les cas, il est dingue. Hein.
Je pense qu'il a été interdit d'exercice.
Non, mais...
Alors, attends, Aurélie, finalement, je vais vous dire, moi, je n'ai pas la réponse. Et je peux vous dire que j'ai un peu du mal.
Ah, vous y revenez à mon histoire de photo d'identité.
Non, mais c'est tellement dingue. C'est tellement dingue que, qu'on se demande vraiment si... Alors, je vais vous rappeler les trois versions, Aurélie. Une photo d'identité laissée par le médecin... après l'opération, pendant l'opération.
Avec punaise ou sans punaise?
Avec punaise.
Allez, je prends tout.
Sans cadre. Une dédicace de 4 cm sur les organes de ses patients, SB comme Simon Bramhall.
Au laser.
Et puis la peinture abstraite, donc il a badigeonné le foie avec un pinceau dans une expérience artistique vivante et secrète. C'est pas si simple que ça.
Bah écoutez, je dirais par élimination, la punaise avec la photo, j'y crois pas trop.
Oh.
Là, non, vous avez raison,
ça
il vous reste.
Très drôle, mais...
Il vous reste une chance sur deux.
Et ensuite, la peinture... Non, la peinture, j'y crois pas non plus. Je dirais qu'il a utilisé le laser.
Yes!
Bravo!
C'est une histoire de dingue, Christophe.
Oui, vous avez voulu me faire confiance et vous avez eu raison. Eh bien, il a bien laissé une dédicace au laser sur le foie de ses patients. Il a fait ça de manière délibérée et consciente. Le docteur Bramhall a plaidé coupable. Voilà, il n'a pas hésité. On lui reprochait surtout d'avoir fait ça sans le consentement préalable de ses patients. Bah, il a évité la prison.
Même s'il l'avait demandé.
Il a évité la prison, mais pas l'amende. Ça lui a coûté quand même 10 000 livres. Et il a eu une peine de 1 an de travaux d'intérêt général. On ne sait pas si on a demandé de faire de la peinture ou pas.
C'est surtout que... Putain, c'est inquiétant, quoi, hein, psychologiquement. Écoutez, bravo Aurélie. Vous avez gagné donc une semaine en vacances à 4 personnes sur un bateau de location, le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix.
Super. Merci. Très contente. Merci.
Et grâce à Emma et moi, vous êtes entraînés maintenant puisqu'on vous a mené en bateau.
Oh, c'est bien. Oh là. Bon, c'est bravo Aurélie, et on est ravis Aurélie, et envoyez-nous des photos de votre petit voyage. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup, bonne journée.
Merci, j'avais dit qu'on reviendrait un petit peu pour parler du sommeil, on va prendre le professeur Pierre-Philippe qui est somnologue au CHU de Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre-Philippe, vous avez mené en lien avec la MNH, c'est la Mutuelle, rappelez-moi, MNH.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, c'est une mutuelle qui regroupe un million de personnel hospitalier, des infirmières, des kinés, des logisticiens, des médecins.
Et justement, vous avez fait une enquête auprès du personnel soignant pour voir quelle était la fréquence des troubles du sommeil, et c'est assez catastrophique, non ?
Ce qui nous a beaucoup surpris, d'abord en préambule, on a fait cette enquête sur 1700 personnes après le confinement. Donc a priori dans une circonstance où on était plus détendu et où on était dans une période un peu protégée, c'est-à-dire dans l'été 2020. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait 35% des infirmières et paramédicaux, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, qui nous rapportaient en semaine dormir moins de 6 heures et 35% qui rebondissaient de 2 heures le week-end avec pratiquement 40% de plaintes d'insomnie. Donc ça, c'est un marqueur très très fort d'une dette de sommeil qui est compensée, mais malheureusement pas complètement équilibrée dans le week-end. Et ça démontre à quel point, y compris chez nous les soignants, on a gagné en connaissance sur l'hygiène du sommeil et la santé liée au sommeil.
Oui, parce que surtout, on en parle beaucoup, bien évidemment, du personnel soignant depuis le début de cette pandémie. Et on sait que la dette de sommeil fait qu'on prend des décisions moins adéquates, on est moins performant. Et quand il s'agit de soigner les autres, c'est un peu embêtant.
Absolument. Et en plus, on a des indices, donc c'était une majorité de femmes qui ont répondu au questionnaire. C'est souvent des personnes qui peuvent être en difficulté parce qu'elles ont une double tâche. Elles s'occupent de leur famille et puis elles ont aussi ces emplois contraignants avec des rythmes un peu variables. Et donc, c'est vraiment une population à risque sur laquelle on veut déployer des programmes d'accompagnement pour les aider justement à optimiser leur hygiène de sommeil.
Alors justement, pour aider aussi bien le personnel soignant que le reste de la population française, on avait parlé de votre application que vous lanciez, l'application Canopée, qui est disponible maintenant pour les smartphones. Vous en êtes où ?
L'application marche très bien. On a donc maintenant, on est en train d'approcher les 15 000 téléchargements. C'est une application gratuite, donc c'est vraiment une démarche de santé publique. Et cette application-là, on l'a implémenté depuis décembre de nouvelles fonctionnalités pour mesurer à la fois la fatigue, les plaintes d'anxiété et de dépression et votre hygiène de sommeil et votre activité physique. Et ce qu'on montre maintenant, on a analysé les données, on est en train d'écrire le deuxième article. On a déjà publié un article qui montre qu'on est efficace sur les plaintes de sommeil légères à modérées grâce à ce programme de 17 jours qu'on propose. Et maintenant, on a de nouvelles données très intéressantes qui montrent que non content d'améliorer les plaintes de sommeil, on peut aussi compenser les plaintes anxieuses et dépressives modérées grâce à l'amélioration de l'hygiène du sommeil, ce qui est une voie très importante à prendre en compte parce qu'on sait avec les enquêtes de santé publique qu'il y a à peu près 60% de gens qui rapportent des plaintes d'insomnie et 20% malheureusement qui rapportent des plaintes anxio-dépressives. Donc c'est une piste très intéressante, gratuite et accessible pour aider nos concitoyens.
Alors on va rappeler Canopée, l'application, alors avec un K, hein, K-A-N-O-P-E-E. Vous pouvez télécharger ça sur les smartphones, quels qu'ils soient, et vous répondez à un petit questionnaire, et puis ensuite ça vous permet d'être un peu suivi et de vous donner des conseils simples, bien sûr, si vous avez des troubles du sommeil léger, pas si vous êtes dramatiquement touché par ce problème, là il va falloir consulter. Pierre-Philippe, merci mille fois, je rappelle que vous êtes somnologue, et quel somnologue, ça c'est pas parce que je sais que ça vous fait plaisir. Hein. quel somnologue au CHU de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Si vous me permettez, juste un dernier mot. On a aussi mis en ligne sur Instagram et TikTok un compte d'aide pour répondre aux questions, pr.philippe. Et c'est très sollicité et ça aide les gens qui se posent des questions sur leur hygiène du sommeil. Et on a une réponse hebdomadaire.
Voilà. Alors Philippe, ça ne s'écrit pas comme le prénom ?
Non, P-H-I-L-I-P. Voilà. Instagram ou TikTok, selon l'âge et l'intérêt des réseaux sociaux.
Ok. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. Merci.
Merci.
Dans quelques instants, la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri qui va nous parler de la place du corps dans les apprentissages à l'école.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
RTL.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 4 avec Coach Cricri qui a voulu nous parler aujourd'hui de la place du corps dans les apprentissages à l'école où le sport a toujours eu une place à part, pour ne pas dire en marge.
Oui, et je suis tombé sur un article du site The Conversation, écrit par Aurélie Djavadji.
The Conversation.
Oui, The Conversation.
Voilà. Ou alors The Conversation, exactement, mais il faut choisir.
Bon, et c'est pas Djavadji, c'est Djavadi.
Djavadi.
Et je voilà, vous pouvez tout y aller maintenant.
Bah,
voilà.
Il dit quoi l'article?
Alors, elle pose cette question, comment envisager une éducation qui tienne compte de l'enfant dans sa globalité afin de favoriser l'épanouissement et l'émancipation de tous. Le fait est que notre système scolaire a mis un certain temps avant de donner à l'éducation physique une part entière dans l'éducation des enfants. Vous savez, au fait, par exemple, de quand date l'intégration administrative de l'EPS à l'éducation nationale ? Vous savez quand c'était ça ?
Mystère.
Eh ben c'était en 1981, donc c'est pas si vieux que ça.
C'est pas vieux, ouais.
Voilà. Et avant, le PS dépendait du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Et comment ça se passe ailleurs ?
Alors, dans les pays anglo-saxons et aussi dans les pays du Nord, on intègre beaucoup l'activité physique dans l'organisation de la journée scolaire. Tout est fait pour que les enfants ne restent pas assis plus de 2 heures d'affilée, par exemple. Les récréations sont aussi aménagées en activité dirigée. Il est même prévu des exercices de relaxation pour préparer les élèves à des matières qui demandent plus de concentration. Alors, le problème, c'est qu'en France, le sport et l'éducation physique et sportive doivent constamment réaffirmer leur légitimité face aux disciplines dites intellectuelles.
Vous m'avez dit en préparant cette émission que c'est quasiment un tabou historique.
Oui, exactement. Et cette journaliste qui a écrit dans The Conversation donc, l'explique dans son article. Le cognitif passe avant le corps pour des raisons en grande partie religieuses et politiques. Je la cite, le corps perçu comme un obstacle et un objet de perturbation est exclu du cadre scolaire. C'est un corps obéissant, domestiqué et normalisé que l'école française a modelé à travers la forme multiséculaire de la salle de classe où tous les enfants sont assis toute la journée. Il y a un vrai tabou, elle rajoute, historique du corps à l'école, de sa connaissance et de la prise en compte du rythme biologique de l'enfant dans les apprentissages.
C'est vrai que dans certaines matières comme les SVT, on se penche sur la santé, sur l'hygiène, même sur la sexualité quand même.
Oui, mais c'est assez restrictif et en cette période où on parle beaucoup de sédentarité, qui est le problème de santé publique qu'on connaît, il serait utile de réfléchir aux apprentissages du corps, à son bien-être et ses capacités. Les études montrent qu'un enfant sportif et agile avec son corps est un enfant qui apprend plus, mieux et surtout qui retient plus facilement les apprentissages.
Ouais, et puis il faut dire que ce qui est vrai pour les adultes quand on les pousse à faire du sport, à bouger, à remettre leur corps au centre de leurs préoccupations, évidemment c'est aussi vrai pour les enfants. Et puis si on réussit à replacer le corps dans le cadre éducatif des gamins, on aura au moins imprimé dans leur cerveau que pour être bien dans sa tête, et bien il faut évidemment être bien dans son corps. Et je vous rappelle qu'il y a des opérations, notamment pendant la semaine olympique et paralympique, avec Paris 2024 et avec Tony Estanguet, on a lancé l'opération 30 minutes à l'école, où on essaye de faire un peu de sport et d'activité physique aux enfants dès le CP quand ils rentrent à l'école. Et ça a très bien marché. Et ça va se généraliser grâce aussi au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup Christophe. Merci chers amis. Ah, un petit mot, Patrice?
Oui, quand même.
Combien de poils avons-nous sur la surface de notre corps?
Oula, bien 4 millions.
4 millions.
On est dans
6 millions.
4 millions. 6 millions.
Entre les deux, figurez-vous. On en a 5 millions. Et c'est évidemment dans le cuir chevelu qu'ils sont les plus nombreux, de l'ordre de 100 à 150 000. On appelle ça les cheveux, Christophe. Et après, on en trouve aussi beaucoup dans la barbe, environ 25 000. Et le reste est ailleurs.
Ah, forcément, vous connaissez l'histoire du poil. Avant, il était bien, maintenant, il n'est plus bien. Emma...
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné une petite recette de produits d'entretien fait maison après vos blagounettes.
Bah oui, bien sûr.
Je vais vous donner celle du lave-vitre. Quand vous aurez terminé votre vaporisateur acheté dans le commerce, vous le gardez et vous confectionnez votre propre lave-vitre en mélangeant 750 ml d'eau tiède et 250 ml de vinaigre blanc aux propriétés anti-calcaire et anti-graisse. Et voilà, le tour est joué. Et ça, je vous garantis que ça ne va pas polluer votre air intérieur.
Et il était temps que l'émission se termine. Alors, merci beaucoup les amis, merci chers auditeurs pour votre fidélité. On se retrouvera bien évidemment dimanche prochain à 9h15 sur RTL. Merci Emma, merci Christophe, merci Patrice. Et n'oubliez pas...
It's the good life, full of fun, seems to be the ideal.
La version La Belle Vie par Frank Sinatra. On vous retrouve bien sûr à 9h15 dimanche prochain. À passer une bonne semaine.
Très bon dimanche.
À bientôt.
Salut.
Kiss that good life. Goodbye.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.